Merci. Bonjour à tous. Je suis heureuse de venir réfléchir un peu avec vous à ces histoires de travail collectif qu'on vous prescrit depuis si longtemps, que même vous, vous prescrivez à d'autres, sans doute, au fil de vos activités. Et mon point de vue, donc, n'est pas celui du prescripteur. Vous m'entendrez, je pense, très rarement dire « il faut, on doit ». Ce point de vue est tout à fait nécessaire et il est un point de repère important, mais je vais me situer d'un autre point de vue, plutôt depuis le point de vue de ceux qui travaillent et qui ont bien sûr un point de repère, les prescriptions du « il faut » et « on doit ». Mais essayons de voir un peu comment ça se passe du point de vue de ceux qui reçoivent ces prescriptions. Alors, j'étudierai la question en 5 points assez rapides. D'abord, pour réaffirmer que tout travail est collectif, contrairement à ce qu'on pense souvent. Deuxièmement, qu'il y a différentes formes de travail collectif, et je vous proposerai quelques définitions, mais les définitions sont discutables et on en discutera. Troisième point, le travail comme collectif, ressources et contraintes. Quatrième point, ce que j'ai appelé le choc des groupes professionnels, car qui dit travail collectif avec des professionnels de différents métiers ne va pas sans question et parfois sans télescopage problématique. Et puis, je poserai la question de la spécificité de l'éducation prioritaire par rapport à cette question du travail collectif. Alors, tout d'abord, premier point, tout travail est collectif. Très rapidement, alors c'est un des apports des sciences du travail, de la sociologie du travail, qui montre qu'il n'existe pas de travail, d'activité au travail, sans qu'il y ait des liens avec d'autres personnes. Même si l'enseignant a l'impression de travailler seul dans sa classe, bon, c'est une plaisanterie, parce que dans sa classe, il y a aussi invisible le chef d'établissement, les collègues, les parents, voire le ministre, qui sont là aussi, qui agissent sur ce qui se passe dans la classe. Donc il n'y a pas de travail collectif sans interaction avec d'autres. Ces interactions peuvent être de proximité, peuvent être lointaines, peuvent être décalées dans le temps, dans l'espace, mais tout travail est social. En fait, c'est ça l'affirmation que la sociologie du travail a largement montrée désormais. Il n'y a pas de travail sans relations sociales et sans relations professionnelles. Donc, on peut dire avec Patricia Remousnard qu'il y a une dimension générique dans la dimension collective du travail. C'est-à-dire c'est lié au genre même, à la caractéristique même de tout métier, que d'avoir une dimension collective. Après, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est spécifique à tel ou tel métier dans le travail collectif. L'autre point que l'on peut observer, c'est que les organisations du travail contemporaine réclament de plus en plus de travail collectif. Et ça, ce n'est pas du tout propre aux enseignants. D'une façon générale, les évolutions du travail nécessitent qu'il y ait des gens qui ont des compétences singulières ou des compétences partagées, que ces gens-là communiquent, qu'ils résolvent des problèmes du travail ensemble, qu'ils se projettent dans l'avenir ensemble, qu'ils fassent des diagnostics ensemble, et ceci dans une perspective, bien sûr, de travail efficace. Donc là aussi, c'est une logique actuellement à l'œuvre qu'on peut interroger également. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, toutes les recherches de psychologie sociale montrent que la coopération est plus efficace que la compétition. Leçon qui est fort peu entendue et mise en œuvre dans un certain nombre de principes à l'œuvre actuellement, dans les politiques publiques d'ailleurs, dont une partie repose sur l'idée que la compétition est mieux. Et même, on peut dire que le fonctionnement du système éducatif pour les élèves repose en bonne partie sur cette idée aussi que la compétition, ça serait mieux que la coopération. Quand on est dans des organisations du travail qui font plus appel à la coopération, cela transforme aussi la relation à la hiérarchie. Et il y a une tension au sein des organisations, particulièrement dans l'éducation nationale, mais pas seulement, entre cet appel à la coopération, qui implique des relations horizontales plutôt, et le fonctionnement vertical qu'implique l'institution. Donc cette tension est normale, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? D'un côté horizontalité, de l'autre côté verticalité. Cela a des conséquences importantes pour ceux qui travaillent, puisque quand on va se situer dans l'horizontalité des relations et qu'on va être beaucoup plus dans la coopération entre pairs ou entre collègues de métiers différents, on ne va pas être dans la même relation au prescrit et on ne va pas être dans la même relation au réel non plus. Tandis que quand on est dans la relation verticale, de rendre des comptes à la hiérarchie, par exemple, ce qui est normal aussi, on a encore d'autres relations. Donc ça, c'était le premier point. Donc tout travail est collectif, et dans les évolutions actuelles du travail, il est prescrit de plus en plus collectif. Ce qui ne veut pas dire que les conditions soient réunies pour qu'il soit réellement collectif. Il y a un décalage entre les intentions de la prescription et la réalité de ce qui se passe sur le terrain, non pas du fait des fameuses résistances au changement dont les enseignants seraient partisans ou qu'ils manifesteraient particulièrement, mais du fait d'autres questions qu'on va pouvoir se poser. En effet, on peut dire qu'il y a différentes formes de travail collectif. Alors, je vais essayer de me lancer dans quelques définitions en sachant en même temps que vous pourrez trouver des définitions un peu différentes selon le cadre auquel il se référence. Moi, mes cadres théoriques vont plutôt du côté de la sociologie du travail et de l'ergonomie et de la clinique de l'activité. Donc dans la coopération, on peut dire qu'il s'agit d'opérer de manière conjointe, volontairement ou pas, de façon informelle ou informelle. Alors déjà, là, c'est important d'introduire la dimension formelle ou informelle. Tout à l'heure, dans ce qui vous a été présenté, il était question de coopération formelle essentiellement et de coopération prescrite. Mais les travaux sur le travail montrent qu'il se passe des choses bien plus importantes encore dans tout ce qui est informel et qu'il se débat, il se met au jour des façons de faire qui ne se mettent pas au jour et qui ne se débattent pas de la même façon dans la dimension formelle. Donc ça a des incidences sur les organisations du travail. Si on ne laisse pas de la place aux coopérations informelles, le travail, très vite, dysfonctionne. C'est un constat qui a été fait dans tous les métiers. Si la coopération informelle n'est pas possible, et on peut se référer aux travaux de Christophe Dejour, par exemple, ou d'Yves Clos, qui montrent à quel point, dans les relations informelles, peuvent se créer aussi des règles de travail. C'est dans ces relations informelles entre pairs que se disent les façons de faire, même si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, même si on pense que c'est pas bien dans les clous, eh bien, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut débattre aussi de savoir quelle est la meilleure façon de travailler. Donc, trois conditions sont nécessaires à la coopération dans les organisations. D'abord, une volonté de coopérer. On n'a pas encore inventé la greffe de la puce de la coopération dans les cerveaux des gens, heureusement. Et toutes les prescriptions, aussi fortes soient-elles, ne peuvent contraindre personne à coopérer. Alors, ça paraît banal de le dire, mais si on n'en est pas persuadé, on peut être dans la situation de répéter, répéter, faut coopérer, mais que ça ne fasse rien bouger du tout. Donc après, la question, c'est comment on crée, bien sûr, la volonté de coopérer. Deuxièmement, autre condition, il faut les moyens de communiquer entre les personnes et des moyens de coordonner la réalisation de l'activité. On voit bien que la motivation pour coopérer, cette volonté de coopérer, ne peut pas se faire seulement par une sorte d'adhésion à ce qui deviendrait une idéologie de la coopération. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut des organisations du travail qui permettent effectivement cette coopération à la fois formelle et informelle. Et des organisations du travail adaptées. Troisième condition, c'est partager un objectif commun. Mais en même temps, cet objectif commun, il n'est pas toujours préalable à la coopération. Comme cela a été très justement dit, c'est en marchant aussi que l'on définit des objectifs. C'est dans le cours des discussions, des débats, que l'on arrive à se mettre d'accord sur des objectifs communs. Des objectifs qui vont être référés aux prescrits, mais qui vont prendre forme ici et maintenant, là où on travaille, et il faut adapter des objectifs au contexte du travail. Tout cela, si on suit De Tersac et Chabot, cela, dans le meilleur des cas, aboutit à un référentiel opératif commun. Tout simplement, on partage avec d'autres, un certain nombre de façons de penser, de façons de faire, référentiel, ça dit bien son nom, opératif parce qu'il permet d'agir, on est beaucoup plus près de l'activité, et commun. Deuxième dimension de la coopération, c'est la régulation. Pas de la coopération, pardon, du travail collectif. C'est la régulation. La régulation intervient dans toutes les dimensions du travail collectif et on peut dire que c'est la forme de gestion du processus d'interaction permettant l'intercompréhension. C'est une définition possible. D'autres définitions vont être plus sur le fait que la régulation, comme son nom l'implique, renvoie aux règles. Et qu'une régulation va être la remise à la règle, en quelque sorte. Mais j'aime bien cette définition parce qu'elle rappelle qu'il n'y a pas de régulation sans interaction et sans intercompréhension. Qu'il ne peut pas y avoir d'application d'une règle qui serait comme la règle sur les doigts des élèves, il y a fort longtemps, bien sûr, pour les punir de ceci ou de cela. Donc c'est une conception de la régulation qui me semble plus adaptée quand on veut comprendre ce qu'est le travail collectif. Pour cette régulation, pour qu'elle ça fonctionne, là aussi, il faut un langage commun, et c'est d'ailleurs à travers les études du langage que cette dimension a été répertoriée, repérée. C'est ce que Falzon appelle un langage opératif. Partager un langage commun en relation avec des activités concrètes qui soient imprégnées aussi de règles partagées, de règles de métier, mais aussi de règles au-delà du métier, puisqu'il y a différents niveaux de règles aussi. Cela permet d'avoir ce langage opératif qui est nécessaire. Autre notion qui vient quand on parle de travail collectif, c'est la coordination. En fait, si on se limite à ce qui est écrit en bleu, on peut dire que dans la coordination, il y a de la planification et il y a de l'agencement des actions avec une visée de cohérence et d'efficacité. On voit que c'est à ce niveau-là de la coordination qu'on est dans le niveau le plus explicite. la coordination est toujours formelle. C'est lors de réunions d'équipe, souvent, qu'on fait de la coordination. La coordination est plus loin de l'activité que la coopération. La coopération est dans le cours de l'activité, tandis que la coordination, elle précède l'activité. Il s'agit de créer des règles partagées pour l'activité. Et c'est pas pour rien qu'il y a ces mots de planification. On est dans l'activité rationnelle, dans l'action rationnelle. Dans la coopération, c'est beaucoup plus subtil. Il y a de l'action rationnelle, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses dont on reparlera. La règle qu'on peut retenir, c'est que plus il y a de coopération et plus il faut de coordination. Je parle là surtout de coopération formelle, bien sûr. Dernier mot qui vient quand on parle de travail collectif, c'est le mot de concertation. La concertation, c'est un instrument, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est un instrument donc de la coopération, de la collaboration, pour confronter et ajuster les points de vue ou négocier des perspectives et des choix. Vous voyez que la concertation va être accolé à la coordination, mais pas uniquement. Il peut y avoir de la concertation sans planification, par exemple. Alors qu'on a vu que la coordination est plus en vue d'une planification de l'action. Donc la concertation, elle aussi, se situe en amont de la coopération formelle. Alors une fois qu'on a eu ces définitions, à vrai dire, vous voulez peut-être que je laisse, on n'a pas encore dit grand-chose. D'abord parce qu'il faut remarquer que si chacune de ces notions renvoie à des fonctions différentes, il y a des éléments qui ne sont pas dits dans ces définitions. Par exemple, quel est le rôle de chacun ? Quel est le rôle des compétences de chacun ? Et puis, à quel type de compétences spécifiques font appel toutes ces activités de coordination, de concertation, de coopération ? Je soulignerai seulement trois compétences. Il y en a bien d'autres, mais j'en soulignerai trois qui, à mon avis, ne sont pas assez mises en valeur et qui ressortent de nos enquêtes. La première compétence est la plus évidente, elle est de communication. Mais de communication au sens de débat, non pas d'information qui est linéaire et qui va d'un point à un autre, mais de la communication entraîne un feedback et entraîne un débat. Il n'y a pas de travail collectif sans débat. Voilà. Et donc, ce n'est pas une anomalie du travail collectif qu'il y ait des débats, des disputes, mais c'est au contraire le signe qu'il y a travail collectif. Donc, réjouissons-nous quand il y a du débat, même si c'est un débat rude. Il faut parfois, bien sûr, se donner les moyens qu'il puisse exister de la façon la plus positive, mais c'est le signe qu'il y a travail collectif. Deuxième compétence, moins évidente, et qui apparaît dans nos travaux, c'est que le travail collectif nécessite des compétences de formalisation. Il y a en effet une sorte d'amnésie du travail collectif. Nous voyons souvent ça dans les écoles ou les collèges ou lycées, c'est qu'il y a une difficulté pour les enseignants, du fait des conditions dans lesquelles ils pratiquent le travail collectif, pour parvenir à formaliser ce qu'ils font à partir du travail collectif. Or, on est là dans le souci de la production de ressources que peut permettre le travail collectif. Comment le travail collectif peut être une ressource pour le travail lui-même ? Et une des conditions pour qu'il soit une ressource pour le travail lui-même, c'est qu'il y ait ce travail de formalisation. Et c'est là où la formation continue, l'accompagnement, peut jouer tout son rôle pour aider justement les enseignants à faire ce travail de formalisation. Troisième compétence que je voudrais mettre en œuvre et que nous avons particulièrement trouvée lors de l'enquête que nous menons sur le dispositif plus de maîtres que de classes, ce sont les compétences prudentielles. Florent Champy accorde beaucoup d'importance à ces compétences prudentielles, avec raison, dans son ouvrage sur les nouvelles sociologies des professions. Et il montre à quel point, ce que nous retrouvons dans nos enquêtes, travailler à plusieurs nécessite à la fois de la modestie, de la compréhension, mais aussi de la prudence. De la prudence qui, dans la philosophie grecque, était proche de la sagesse. La conception de la prudence et de la sagesse était très proche. Et le travail collectif trouve toute sa justification quand elle permet d'augmenter collectivement ces compétences prudentielles qui, dans tous les métiers de relation à autrui, sont particulièrement importantes. Parce qu'on agit sur de l'humain, parce qu'on travaille avec de l'humain, et qu'il y a un certain nombre aussi de règles éthiques qui doivent être respectées, qui doivent être débattues, et que ces compétences prudentielles s'inscrivent dans ces préoccupations. Dernier point sur ce deuxième point de définition, c'est qu'il faut ensuite réfléchir à quelles conséquences a chaque dimension du travail collectif sur l'activité, sur le travail. Quand on regarde du point de vue des enseignants, il y a une forte critique qui est émise à tout ce qui est réunionnite. Parce qu'ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas l'expérience du fait que ces réunions, ces concertations, si on les place dans le cadre que je viens de décrire, puissent avoir un effet et puissent être une ressource pour eux. Donc sans doute qu'il y a des choses à voir de ce côté-là. Mais toutes les dimensions du travail collectif ont un effet sur l'activité elle-même. Je reviens juste là pour vous rappeler le... Voilà, je vais passer à la question 3. Il y a Patrick qui me stresse. Là, j'ai cru que j'étais... D'accord. Donc, des effets sur l'activité, pour finir, donc, des différentes formes de travail collectif. Cela joue sur le temps. À quel moment se fait ce travail collectif. Les enseignants estiment la plupart du temps qu'il se fait beaucoup trop en dehors de leur temps de travail, qu'il se fait beaucoup trop, selon leur expression, entre deux portes, voire désormais non seulement par mail, mais par texto, par SMS. Le maître supplémentaire ayant un SMS, recevant un SMS du maître titulaire lui disant où il en est, etc. Donc ce temps nécessaire, où le prend-on? Sur quoi, sur quelle partie du temps de travail, du temps personnel, du temps domestique, le prend-on? Sachant qu'une des évolutions actuelles qui est mal vécue par les enseignants, particulièrement dans le primaire, je le constate, qui est la porosité de plus en plus grande entre lieu et temps de travail à l'école et temps de travail à la maison. Cette porosité, elle porte atteinte aux équilibres, vie domestique, personnelle, vie professionnelle, et parfois cela peut porter atteinte aussi à la santé. Donc on voit bien que réfléchir aux incidences du travail collectif sur l'organisation du travail n'est pas anodin. Ensuite, le travail collectif a des conséquences, et j'arrive à mon troisième point, sur la façon de produire des ressources, mais aussi sur les contraintes que cela peut constituer. Alors, en effet, le travail collectif n'est-il pas une atteinte portée à l'autonomie dans le travail ? C'est en règle générale une crainte qui peut être exprimée, sachant que l'autonomie dans le travail est la première attente de tout salarié. Qu'il soit infirmière ou infirmier, qu'il soit trader, qu'il soit enseignant, qu'il soit travailleur à la maison ou dans une maison de retraite. Et ça, il y a un auteur qui le montre particulièrement bien, qui a travaillé sur les caissières, qui s'appelle Isabelle Ferreras, et qui montre à quel point les attentes à l'égard du travail sont toujours les mêmes. Je vous les rappelle. Premièrement, l'autonomie dans le travail. Sans autonomie dans le travail, en gros, le travail n'a plus de sens, on tombe malade. Deuxièmement, l'utilité, le sentiment d'utilité. Et là encore, quel que soit le travail qu'on fasse. Troisièmement, une attente de reconnaissance de ce qu'on met de soi dans le travail, de ce que ça nous coûte et du travail que l'on produit. Et quatrièmement, mais ça n'arrive qu'en quatrième dimension, le salaire. Donc finalement, la dimension économique n'est pas la dimension première quand on parle aux gens de leur travail, et particulièrement en France. Donc cette attente énorme qu'il y a en matière d'autonomie et qui est nécessaire à la qualité même du travail et à la qualité de vie au travail, n'est-elle pas contradictoire avec le travail collectif prescrit, nécessaire ? Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est contradictoire, mais il s'agit de dire qu'il y a une tension entre les deux, et que cette tension ne peut être dépassée que dans la mesure où le travail collectif produit plus de ressources que de contraintes. Or, la plupart du temps, c'est l'inverse qui se passe. Les enseignants ont l'impression que le travail collectif produit plus de contraintes que de ressources pour eux, pour leur activité. Et comme ils sont déjà dans la course, le nez dans le guidon, comme ils disent, eh bien, ils ne sont pas forcément enclins à adopter des activités qui leur procurent encore plus de contraintes. Alors, en quoi le travail collectif peut-il être une ressource ? Dans le meilleur des mondes, celui où le travail collectif se passe dans des conditions acceptables en termes de conditions de travail des salariés, j'élargis au-delà des enseignants, le travail collectif peut être une ressource parce qu'il est une occasion de solidarité d'abord. On l'oublie souvent, mais ce qui est fort dans le travail, ce sont les solidarités professionnelles. De savoir que si j'ai un souci, je vais pouvoir me retourner vers le collègue. Il y a de ça une quinzaine d'années, j'avais fait une enquête assez lourde sur la souffrance au travail des enseignants, et en parallèle, la Fondation Recherche de la MGEN, avec qui je travaillais, avait fait une enquête par questionnaire. Et une des questions est portée sur quand vous avez des difficultés au travail, vers qui vous tournez-vous ? La première réponse était vers des collègues. Donc le travail collectif renforce cette dimension de solidarité qui est une dimension du travail importante. Deuxième ressource, c'est que le travail collectif, quand on est dans la coopération, particulièrement dans la coopération informelle, et comme je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, l'occasion de confronter des manières de faire, des façons d'agir entre personnes qui font le même travail, qui connaissent le travail, qui peuvent, de façon crédible, me dire si je montre mon travail, oui mais là ça va pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, moi je ne ferai pas comme ci, moi je ferai comme ça, ou alors dire, ah oui, ça c'est une bonne idée, on devrait faire comme ça. Donc quand on pense à on devrait faire comme ça, cela permet de construire collectivement des règles de travail. Mais des règles de travail qui sont ajustées à la situation de travail. On n'est pas là dans l'ordre des bonnes pratiques qui vaudraient ici et ailleurs de façon équivalente. On est dans la construction de règles de travail qui valent pour le contexte de travail dans lequel on agit. Ce qui est assez différent des bonnes pratiques. La ressource du travail collectif, c'est aussi une ressource en termes subjectifs. Je ne vais pas développer ce point parce que je ne suis pas psychologue et ce n'est pas mon rayon, mais il y a des travaux sur ce plan. J'oriente votre intérêt du côté de ce qu'on appelle le soutien social, qui est tout à fait intéressant et que les psychologues sociaux particulièrement ont bien travaillé. En même temps, le travail collectif, ça peut non seulement être une contrainte, mais ça peut aussi être parfois dangereux. Alors pourquoi est-ce que j'emploie ce terme de dangereux ? Parce qu'il y a une dimension du travail collectif qui est souvent évacuée, c'est la dimension du pouvoir. Il y a des auteurs qui travaillent là-dessus, notamment un Québécois, Louis Levasseur, qui mettent en avant cette question du pouvoir au sein du travail collectif. Et cela pose la question du fonctionnement des collectifs. Là aussi, les travaux de psychologie sociale existent depuis longtemps, qui montrent très bien qu'il peut y avoir des groupes dans lesquels il y a des prises de pouvoir, etc. Mais on voit bien que dans ces groupes-là, les relations ne sont pas à égalité. Le propre du collectif de travail, c'est qu'on est entre pairs et à égalité. Donc, dans l'idéal, c'est un fonctionnement plus démocratique qu'il doit y avoir au sein du collectif. Ceci dit, il se pose toujours des questions de pouvoir malgré tout, et particulièrement quand on a affaire à un autre type de travail collectif qui met en connexion des groupes professionnels différents. Ce sera mon quatrième point, le choc des groupes professionnels. Alors, ce n'est pas le choc des civilisations, mais c'est le choc des groupes professionnels. En effet, il y a, et c'est une tendance internationale, de plus en plus de... la qualification est négative et ce n'est pas bien, mais pour la compréhension, ça va plus vite, de non-enseignants, on va dire, qui travaillent dans l'école, avec l'école, en relation avec l'école. Je discutais avec Maurice Tardif, un chercheur québécois, il y a 15 jours, qui me disait qu'ils estimaient qu'au Québec, actuellement, ça fait 50% des personnels. 50% des personnels dans les écoles qui sont ce qu'ils appellent des techniciens de l'éducation. En France, on n'en est pas à 50%, mais on voit bien qu'il y a une prolifération d'intervenants, de professionnels auxquels on fait appel, soit dans l'école, même s'ils n'y sont que ponctuellement, soit hors de l'école. Et c'est là où ça se complique, parce que chaque groupe professionnel a son histoire. Certains sont très récents, je pense notamment à tous ceux qui s'occupent de l'accompagnement des enfants dans leur famille, dans le cadre des projets de réussite éducative. Et ces groupes ne sont pas encore même existants réellement comme groupes professionnels. Ils sont en voie de constitution. Y parviendront-ils d'ailleurs ? C'est une question. Donc il y a une histoire différente, il y a des identités différentes, il y a aussi ce qu'on sous-estime souvent, une conception de l'éducation de l'enfant ou de l'adolescent qui n'est pas la même, et une conception de l'autonomie du sujet qui n'est pas la même. On voit bien, par exemple, que dans les relations parfois conflictuelles qu'il y a en maternelle entre les ATSEM et les enseignants, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Un conflit en relation avec des conceptions différentes de l'éducation, de l'enfant, de l'autonomie du sujet. Il y a également des statuts différents. Ça veut dire quoi